tickets et frais gagnés.
À midi 22, je pense, Fred, que tu as une vie bien remplie. Mais je pense pas qu'un jour, tu écrives ta biographie en plusieurs tomes.
Ben, tu sais que... C'est drôle que tu me parles de ça parce que un jour, j'aimerais ça. Si les livres sont encore populaires, je pense que je me suis tellement promené et j'ai tellement vécu d'affaires bizarres que oui, un jour, il y aura un livre là-dessus. Mais ça tiendra probablement dans un seul tome. Tu as tout à fait raison.
Écrit gros, pas trop de pages.
Avec des photos, beaucoup de photos.
Mais quand tu t'appelles Guy Bertrand, tu as une vie très, très, très remplie. Tu peux te permettre de le faire en plusieurs volets.
C'est parce que, tu sais, M. Bertrand, Maître Bertrand, a sa carrière d'avocat, mais c'est un personnage qui s'est immiscé dans plein de sphères de la vie sociale. Et celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la sphère sportive.
Absolument, parce qu'en sortant ce deuxième tome-là, il y a une déclaration au choc qui fait réagir aujourd'hui. Et je le cite, « Si les Nordiques n'étaient pas partis en 95, le oui aurait gagné le référendum. Donc, si les Nordiques n'avaient pas quitté pour le Colorado, nous serions un pays à l'heure où on se parle. »
Je pense que beaucoup de gens qui ont vu cette ligne-là aujourd'hui ou hier vont esquisser un petit sourire. Mais il faut comprendre qu'en arrière de ça, il y a des années de travail et il y a une philosophie en arrière de ça qui est peut-être pas si folle.
Maître Bertrand, bonjour.
Allô, bonjour.
Dites-moi, comment vous expliquez votre raisonnement, c'est-à-dire que si les Nordiques avaient été là en 95 encore, qu'on serait maintenant un pays au Québec?
Parfait. Je vais faire un petit détour pour vous donner une réponse la plus courte possible et la plus précise. Dans le premier tome, je pars à 25 ans et toute ma vie, tous les jours de ma vie jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je n'ai pas travaillé pour le parachèvement du pays québécois. Ça a commencé. Donc, dans le premier tome, ça te couvre toute la période du samedi de la matraque, du FLQ, de la crise d'octobre. J'étais avocat de ces gens-là, donc j'étais même interrogé par la CIA. Donc, j'explique ça dans le premier tome. La fondation du Parti québécois, le général de Gaulle, le plan pour faire l'indépendance, le plan secret que j'ai travaillé comme président d'une commission nommée par M. Johnson, père, juste avant qu'il soit premier ministre. Et 80% de ce qui est dans mon premier tome n'était pas connu même par mes enfants, ma famille, parce que je devais les protéger. J'étais même sur la liste des gens qui devaient être arrêtés lors de la crise d'octobre. Donc, j'ai révélé beaucoup de choses et ça se terminait en 72. En 72, le deuxième tome, qui comprend le sport et la politique, on pouvait pas en faire... normalement, il y en aurait eu 3, il va en avoir 4, là. Mais c'était tellement volumineux, le sport. Alors là, je réponds à votre question. C'est que j'ai constaté, après avoir été candidat moi, pour le Parti québécois, même au leadership du parti après le départ de M. Lévesque en 85, que la politique divise un peuple et le sport rassemble un peuple.
Ouais.
Alors, dans n'importe quel pays du monde, je l'expliquais un petit peu hier à Radio-Canada, par exemple, les pays d'Afrique qui sont pauvres, mais qui ont une équipe de soccer, qui se rendent parfois assez loin dans la compétition la plus grande au monde, les gens, tout le peuple se rallie derrière leur équipe nationale. Mais la politique partout dans le monde, et particulièrement au Québec, se divise. Et à partir de ça, j'ai constaté qu'avec mes connaissances comme avocat constitutionnaliste, en utilisant le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire aller devant les tribunaux, je pouvais obtenir plus qu'un gouvernement. Alors, je vais revenir à votre question des Nordiques après. Donc, c'est comme ça qu'en prenant des injonctions puis des poursuites contre la Ligue nationale, j'ai pu avoir des contrats français pour mes joueurs, alors qu'on me répondait que c'était la seule langue officielle, c'était l'anglais en Amérique. Puis bon, deuxièmement, obtenir que le français soit chanté uniquement en français au Colisée pour lutter contre le colonialisme de bilinguisme colonial au Forum de Montréal. Et ça, c'était une bataille terrible et je dois le résultat final à Marcel Aubut, qui a convaincu les gouverneurs un après l'autre. Marcel, qui était un fédéraliste, moi j'étais indépendantiste, mais on était des complices pour que le Québec, les Nordiques, deviennent les meilleurs ambassadeurs du Québec français, avec le fleur de lysée sur le chandail. Et ainsi, quand je suis devenu agent des joueurs de hockey, mon premier client, Thériel Cloutier, après c'était Michel Goulet, Pierre Lacroix et d'autres, là j'ai rencontré des avocats partout aux États-Unis, qui venait particulièrement William Roberts, qui est un des grands constitutionnistes américains, puis il m'a dit, M. Bertrand, on va plaider pour vous. Là, il a compris qu'on était une nation, une petite nation en Amérique, puis il a dit, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, vous êtes connus dans les grandes villes, lui était de Philadelphie, Puis là, il venait à Québec, puis il apprenait des mots français, le graffiti. Puis alors, cet avocat-là a plaidé contre moi, justement, l'injonction pour empêcher Michel Goulet d'être repêché par la Ligue nationale, puis on est devenus des amis. Et là, ce qu'on a écrit dans le plaidoyer que Marcel Aubut a présenté au gouverneur, c'était « Vous, les Américains, vous êtes puissants. Vous êtes un éléphant, vous êtes pas méchant, vous êtes juste gros, puis vous déracinez les arbres, vous tuez pas le monde, là, vous êtes pas un tigre qui dévore, mais vous êtes tellement gros que vous écrasez les souris. Puis nous autres, on est une souris pour vous. Mais les souris ont le droit de vivre. » J'expliquais ça comme ça. Alors, il dit, oui, on est comme un tableau. Il y a du beau bleu, du beau blanc. Puis on a le droit d'être une petite nation en Amérique du Nord. Mais pour vous, les Américains, ce serait prestigieux. C'est comme ça que je l'ai vendu. Ce serait prestigieux que vous puissiez dire, nous permettons à ce peuple qui a quasiment créé le hockey, qui c'est la mecque du hockey, c'est le Québec, d'avoir son existence, puis de pouvoir avoir sa langue, s'il le désire, sur son territoire. Alors c'est comme ça qu'ils ont modifié les règlements, puis qu'on n'a pu pas avoir des contrats français, qu'on a pu chanter l'hymne national uniquement en français, qu'on a pu avoir des annonces uniquement en français, au lieu de « First goal by Guy Lafleur », premier but, bon. Mais, condition, on met des petits micros derrière le banc des joueurs pour que les joueurs comprennent. Deuxième condition, pour les journalistes. Et les arbitres ont accepté, il fallait le consentement des arbitres, il fallait le consentement de l'association des joueurs qui ont consenti. Et ils m'ont posé la question, « Why didn't Guy Lafleur and Jean Béliveau and Maurice Richard didn't ask that before? » Pourquoi ces grands joueurs vedettes l'ont pas demandé, ces joueurs du Québec? Et là, moi, j'ai répondu, écoutez, probablement parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit, mais moi, mes connaissances comme juriste me permettaient de faire une bataille. Mais j'aurais pas pu gagner ça sans Marcel Aubut. J'ai rendu un hommage hier à Marcel Aubut. Écoutez, c'est fantastique, parce que c'est beau d'avoir des projets, mais il faut que tu aies quelqu'un qui est de l'intérieur. Alors, je réponds à votre question maintenant pour les Nordiques. Considérant que les Nordiques, il n'y a jamais un ambassadeur ni un délégué à l'extérieur qui a représenté autant le Québec français que les Nordiques de Québec. Et c'était le but. C'était l'objectif qu'on avait fait avec Marcel, qui était mon complice, puis Maurice Filion. On va se faire une équipe qui va représenter vraiment le Québec, alors que les Canadiens de Montréal, avec respect, représentent le Canada. Le Canada bilingue, puis bon. Et c'est comme ça que les Nordiques sont devenus extrêmement populaires aux États-Unis. Pour vous dire, là,
peut-être un véhicule, pas de propagande, mais un véhicule de patriotisme québécois, de promotion pour...
Oui, puis les Américains sont très patriotes. Tu sais, We American, là, puis God Bless America, là, tu sais, qui chantait, parce qu'il était de Philadelphie, là, Maître Roberts. Les autres, là, ils ont compris ça, là, ce désir de vivre en français... Ce petit territoire, ben, c'est un grand territoire, mais ce peuple qui veut vivre... Vraiment, ils ont épousé ça, puis plus que le Canada anglais, je vous le dis, là. D'ailleurs, c'est eux autres qui nous l'ont donné, c'est pas le Canada anglais qui nous a donné ça, là, c'est les Américains. Ben, pas donné, mais qui ont accepté. Alors, quand j'ai vu ça, moi, là, j'ai compris tout de suite que pour pouvoir faire comprendre à un peuple que ce qu'il y a de plus normal, de parachever son pays... Mais il faut pas le diviser. Puis la politique divise. Si on n'aime pas le chef, on vote contre. Même si l'indépendance est un beau projet, si on n'aime pas Paris, on vote contre. Alors je me suis dit, les Nordiques vont permettre à la population de réaliser qu'on est capable de jouer dans la cour des grands. Puis si on est capable d'être des grands dans le sport, qui est notre meilleur, le hockey, on est capable d'être des grands parmi les peuples de la Terre. Alors ça s'est développé tranquillement, puis avec des joueurs comme Michel Goulet de votre région, et que je lui ai rendu hommage hier avec Pierre Lacroix. C'est les joueurs, c'est les deux seuls qui ont été au combat pour avoir les contrats français. Mais là, on m'a dit, Maître Bertrand, vous ruinez la carrière, vous les instrumentalisez. Tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart disaient, faites pas ça à vos joueurs. J'ai dit, je fais rien. Pierre Lacroix était là hier. J'ai dit, tu te rappelles, Pierre, je t'ai dit, une langue, c'est pas qu'un moyen de communication. Nous, on veut vivre en français. On veut pas juste parler puis chanter en français dans 100 ans. On veut pouvoir plaider. On veut des animateurs qui vont pouvoir parler français, des postes de radio, des travailleurs, des médecins. On veut vivre en français. Et puis on veut signer des contrats en français. On est au Québec, vous êtes des francophones, vous ne parlez pas anglais. Puis moi, je ne peux pas être complice, je ne signerai pas des contrats en anglais. Je vous le dis, vous allez vous trouver un autre avocat.
Mais Maître Bertrand, je veux qu'on aille quelque chose parce que on est dans la supposition avec l'affirmation que vous dites, sauf que il faut quand même savoir, puis pour ceux qui trouvent ça loufoque ou amusant tout au plus, faut savoir que le référendum de 95, si c'est le camp du non qui l'a emporté, puis vous dites, ben, si les Nordiques avaient été là, peut-être que ça aurait passé.
Oui,
faut dire qu'il y avait un petit air de déjà-vu, parce qu'en 1980, on avait sollicité vos services dans le camp du oui également, pour faire passer l'idée souverainiste avec l'idée d'utiliser les sportifs. Vous le trompes-tu?
Oui, en 80, c'est moi qui ai présenté les athlètes pour le WOU Forum à la demande de René Lévesque. Et les deux seuls qui ont monté sur le podium, c'était Michel Goulet et Pierre Lacroix, qui sont venus lire un petit billet. Il y avait 6000 personnes. On était deux jours avant le référendum et les sondages mettaient le oui gagnant. Mais là, la campagne de peur de dernière minute a été catastrophique. Mais même moi, en 80, je croyais pas qu'on gagnerait. J'étais très surpris quand j'ai vu que à deux jours avant le référendum. Mais je reviens à votre question qui était très importante au départ, en 95, c'est que là, c'était une catastrophe de penser qu'on laisserait partir les Nordiques dans l'année référendaire. Les Nordiques sont partis au mois de mai 95, le référendum était en novembre, et on n'avait pas le droit de laisser partir ce qu'on avait, qu'on a eu tellement de misère à avoir, soit les Nordiques qui étaient les meilleurs ambassadeurs du Québec français, et en même temps perdre aussi ce qu'on voulait avoir, qui était le référendum gagnant, le oui. Alors, moi, ce que je dis, ce que je sais, que je vais expliquer dans le troisième tome, j'ai refusé de répondre à plus de questions hier avec le soleil, je vais tout l'expliquer en détail, avoir deux chapitres complets, ma stratégie en deux volets avec Marcel Aubut. Marcel Aubut était la pièce maîtresse. Marcel Aubut, là, c'est le gars le plus dynamique que le Québec n'a jamais eu. Il y a 2000 contacts dans le monde. Marcel Aubut et moi, on était capables. J'aurais été capable de convaincre Marcel Aubut de retarder le départ des Nordiques après le référendum. Sinon, j'avais une injonction de déjà prise, déjà sur la table pour empêcher le départ des Nordiques. Et je n'ai jamais manqué mon coup. Du moins, une injonction qui aurait pu nous permettre de retarder. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé pour voir M. Lévesque d'urgence. Et là, j'ai été bloqué par Jean-François Lisée, toute la garde rapprochée de Parizeau. Puis Jean Royer, je pense, un autre. Là. J'en sais de plus en plus parce que les gens commencent à me parler là, de ce que, pourquoi qu'on m'empêchait d'y voir. Et là, c'est clair. On a perdu par 50... Bien sûr, les chiffres là, qui vont être dans le deuxième tour, 54 000 voix. Dans l'Est du Québec, ça prenait juste 27 000 voix des gens révoltés du départ des Nordiques qui seraient venus dans le camp du oui et ça basculait. Donc, c'est une fausseté de dire que c'est les Anglais puis le vote ethnique qui nous a fait perdre. Une fausseté, parce que, en communication, quand on contrôle pas quelque chose, c'est différent quand on contrôle. Or, le camp du oui savait que les anglophones et les allophones voteraient pour le non. Donc, ils n'ont pas été surpris.
C'était pas une surprise, ben non, c'est ça.
Il n'y avait pas à les accuser. C'était clair. Par contre, au niveau des francophones, c'était 72 % dans toutes les régions du Québec, sauf Québec. Presque toutes les régions, sauf Québec est descendu à 52 %. C'est là que le référendum s'est perdu. Et qu'est-ce que les gens me disaient? Maître Bertrand, je vous le dis, là, ça, c'est unanime. Mes comptables partout sur la rue, Maître Bertrand, pensez-vous qu'on peut faire un pays quand on n'est même pas capable de garder une équipe professionnelle qui nous permet de jouer dans la cour des grands avec Chicago, Toronto? Là, on est rendu grand, puis là, on va redevenir les meilleurs parmi les petits. Parmi les Pee-wee, parmi les juniors avec les Remparts, puis le Roger Hart. Donc, c'était l'humiliation qu'on sentait de quelqu'un qui propose un pays, mais qui est même pas capable de gérer le départ d'une équipe professionnelle. C'est tellement difficile à avoir. Je vous dirai pas mes confidences, là, il y a quelques jours avec Marcel, là. Mais ça reviendra peut-être jamais. Quand vous avez quelque chose qui vous grandit, faut jamais accepter qu'on nous ratatine. Alors, c'est un manque de vision totale d'avoir laissé partir les mains. Donc, c'est 27 000 voix qui auraient fait la différence et on les aurait eu facilement dans la région de Québec, dans la ville, dans Chicoutimi, dans le Saguenay, un peu partout, le Bas-Saint-Laurent. Catastrophe. Et je vous le dis, les Nordiques, probablement à part ça, c'est tout ce qu'ils demandaient, c'est qu'on construise un amphithéâtre. Mais moi, j'avais fait un projet en 1979. Puis j'avais M. Desourdis, on était prêt à faire un amphithéâtre de 18 000 sièges, ça coûtait 20 millions. On a échoué à cause du maire Pelletier. Je l'explique dans le deuxième tome. Mais en 95, il fallait un amphithéâtre de 18 000 sièges, sinon il partait. Ah non, c'était bon. Alors ils ont dit non, Parizeau, pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées, là, bon. Mais plus tard, on l'a eu, mais trop tard. Quand on l'a eu en 2014, ça a coûté 400 millions. Puis là, on a fait croire au monde qu'on aurait les Nordiques. C'était l'euphorie, là, l'illusion dans l'euphorie. Voyons, c'est clair, les Nordiques ne viendront pas de mon vivant, en tout cas. Ça va coûter 700 millions, peut-être un milliard, en argent canadien, pour on n'a pas l'argent. Alors, c'est une erreur monumentale et grave, mais comme tous les perdants. Puis je suis comme ça, moi aussi, j'ai déjà perdu des causes. On a toujours des explications. Au lieu de se blâmer soi-même, au lieu de se dire « j'ai fait une erreur, ma stratégie n'était pas bonne », on cherche toujours dans « c'est le juge qui n'a pas compris ». Bon. Alors, c'est clair que le camp dit « oui, t'as pas pour dire que c'est de notre faute parce que on n'a pas vu venir la force, on n'a pas compris la force du sport, surtout notre sport national, pis on n'a pas su s'asseoir avec quelqu'un qui aurait pu nous aider, qui a réussi jusque-là ». Et puis, non, on a préféré blâmer les Anglais, puis le vote technique, c'est que... Alors, c'est un peu ça. Mais les détails, si vous êtes patient, le troisième est commencé, on est rendu 200 pages de fait. On va le sortir l'an prochain. Puis là, vous allez avoir toute la stratégie, la documentation qui démontrait que c'était j'aurais pu retarder le départ des Nordiques.
Dernière petite question, Maître Bertrand, avant qu'on se quitte. Le fédéral a souvent été blâmé d'avoir mis de l'argent pour promouvoir l'unité canadienne. Pensez pas que vous auriez pu aussi être visé, selon ce que vous venez de nous expliquer, de dire « bon, le gouvernement provincial a mis de l'argent pour sauver les Nordiques dans l'unique but de promouvoir la séparation du Québec? »
Non, mais c'est... le but de mon livre, c'est de démontrer que le sport, c'est de la politique de A à Z, et que le Hockey Canada, c'est un organisme financé en grande partie par le gouvernement canadien. Et c'est, on appelle ça en anglais, de nation building. On construit une nation avec ça, puis on en fait la promotion. Autant le sport olympique que le sport professionnel un petit peu moins. Mais non, ça aurait été tout à fait normal. On a essayé beaucoup avec les trois essais pour avoir une équipe nationale, y compris lors du 400e à Québec, avec M. Harper, puis tout ça. On a été bloqués par Sport Canada, Hockey Canada, l'Association canadienne de hockey amateur. Ils sont venus à Québec me rencontrer. J'étais aussi avec des fédéralistes, Jocelyn Fauché dont je parle, un fédéraliste qui était d'accord pour une équipe nationale. On a travaillé ensemble. On a proposé trois projets. On a dit, d'accord, nous, on est juste des faire-valoir dans l'équipe canadienne. On est les meilleurs joueurs de hockey au monde, mais on a toujours juste trois joueurs, juste pour dire que les Frenchies sont là. On a dit, écoutez, vous voulez pas qu'on ait une équipe nationale. Pourtant, au Royaume-Uni, ce sont des nations comme nous qui sont pas souveraines, que ce soit l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, puis l'Angleterre, quatre équipes à la Coupe du monde de rugby, notamment, puis ont leur équipe nationale, puis se tuent pas quand ils jouent un contre l'autre. Parce... Bon, on a dit... Nous, là, vous voulez pas qu'on ait une équipe nationale comme, par exemple, l'Écosse ou l'Irlande. Bon, laissez-nous, choisissez les meilleurs joueurs que vous voulez du Québec dans votre équipe nationale canadienne, puis laissez-nous former dans un plan B une équipe de Québécois qui va faire les matchs hors concours avec la Suède, notamment, qui aurait voulu, la Norvège, etc., juste pour les matchs hors concours, puis ça aurait été déjà prestigieux pour le 400e. Pour fêter notre 400e. Ils ont refusé.
Alors, Maître Bertrand, le temps file, mais comme vous avez évoqué son nom à de multiples reprises, ça me brûle de vous demander, Marcel Aubut, il arrive quoi avec lui ces temps-ci?
Marcel, il était invité à mon premier tour pour deuxième, puis j'ai compris que Marcel, suite aux allégations qui ont été portées contre lui, préfère rester dans l'ombre. Puis c'est correct. On a perdu quelqu'un. D'ailleurs, si on veut avoir le retour des Nordiques, à mon point de vue, je lui disais à Marcel, faut passer par toi. C'est contact avec la KHL parce que ça reviendra pas, je l'ai dit dans le deuxième tome, à moins qu'on crée un nouveau circuit. Et le nouveau circuit, au lieu de payer 500 millions ou 700 millions, les équipes, 4 du Canada, 2 des États-Unis, mais 25 millions. Et ensuite, on fait une entente avec la KHL pour des finales. Mais le gros problème qu'on a, puis est expliqué dans le livre, c'est que l'amphithéâtre a été loué pour 25 ans à Pierre-Carl Péladeau. Alors, on peut rien faire, même si vous avez 25 millions, vous êtes prêt à lancer l'équipe à Québec, vous ne pourrez pas louer l'amphithéâtre. Et Péladeau, lui, croit que les Nordiques vont revenir, mais dans la Ligue nationale. Donc, on est comme pogné à ne pas avoir de hockey pendant 10, 15, 20, 25 ans, mais à garder l'espoir que la Ligue nationale pourrait revenir à Québec. Alors là, c'est l'espoir, c'est Seattle qui s'en vient. Après ça, c'est Houston, puis C'est
une deuxième équipe à Toronto, peut-être.
C'est... Une deuxième équipe à Toronto. Donc, c'est ça que j'appelle l'euphorie dans l'illusion. On souffre. Mais là, on est devenu moins euphorique. On avait un maire qui disait « Ah, j'ai un téléphone avec moi, avec New York, j'ai les numéros de téléphone. Ah, je sais bien des choses. » Alors, le monde a cru, quand on a construit l'amphithéâtre, on a mis 400 millions, qu'il y aura une équipe. Mais c'était de l'illusion, de l'euphorie dans l'illusion.
Maître Bertrand, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ben, vous êtes très gentil, puis je vous apprécie, puis je salue beaucoup les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Merci, bonne fin de journée.
À bientôt, merci.
Au revoir. Maître Guy Bertrand, du bonbon pour un animateur de radio paresseux, parce qu'on pose une question et sa réponse file après coup. Toujours intéressant comme point de vue, pareil. Hein? Je m'attendais pas à plusieurs de ses réponses, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'il a totalement raison? Je ne sais pas, mais chose certaine, il amène des éclairages que, comme simple mortel, moi, je n'avais pas.
On l'a pas vécu.
C'est ça.
Puis c'est des gens, il a piqué à ma curiosité assez pour que même je lise le premier tome, puis le deuxième m'intéresse, puis le troisième, puis le quatrième.
95.7 Kick. Saguenay, midi pile. On revient dans quelques...